Et j'adore création littéraire, radio, cinéma. Il paraît que tout ce que vous vivez est inspiré de faits réels. Alors, oui, bonjour, oui, allô? Comment ça, réalité subjective? Alors, toi tu vis, moi je vis, et de l'autre côté il y aurait les faits réels. Alors, oui. Oui, tu peux répéter? Répète. L'aspect physique des choses, la manifestation concrète d'un contenu, d'un processus, d'un événement. Quotidien, subjectif, composé de la réalité. Pensais-tu vivre une manifestation concrète de la réalité? Émission radiophonique à l'initiative de Laurie Mangy-Emmanuel Lalonde, Radio Pieds-Nus, et le master de création littéraire de l'ESADAR, Le Havre. Tout de suite, Jérémy Morlard, Camille Renaud et Yanis Piafri.
Que l'intuition de Manosé, qui nous met prévoyant les coups de froid sur la culotte, rien de, dans la tête de préalable. Je viens vomir. Après quelques mois, j'étais hypochondriaque. C'est là que ça commence, dans la conscience du temps. Et si je meurs, que faire de la suite? Si cette sensation était la mort sous ma peau, et l'appréhension permanente du plus pouvoir. Rien faire de l'intuition de Manosé. C'est la victoire de l'empressement, l'épuisement des réserves. C'est l'extinction du feu recouvert du bois sec, qui ne laisse aucun air, qui ne laisse plus rien. Fait oublier les mois perdus dans le tournis, fait oublier le temps dans son poids sans fond, effondré sur soi-même sans pouvoir en parler. Que de mots qui répètent sans réalité, dans l'impermanence, dans la peur profonde, en attente de la porte qui s'ouvrirait derrière, d'où viendraient des cauchemars qui me voleraient le temps. Comment donner un contour à ce temps, à ces moments inquiets, à ce vertige idiot? J'ai passé des années à redire les mêmes mots, je doute un peu de leur utilité. J'arrosais les sujets avec des traits froids comme un sperme éventé, fluide et mort et stérile. Je crois qu'il croupissait dans l'arrière de mon crâne et coulait sous ma nuque qu'il faisait frissonner. Je m'habituais à trembler et ma bouche assouplie m'a donné en retour quelques moyens plus doux, plus corrects peut-être, de dire ma faiblesse. J'ai même cru donner des fleurs qu'à un moment je pouvais vivre. En même temps être seul, entendre les solitudes. En même temps voir les cercles et les tours dramatiques. J'ai aperçu l'amour et voudrais le garder dans les recoins presque invisibles. Des attentions discrètes d'une absence à une autre, des croisements solitaires, des espaces enfermés où naviguent les yeux. Un vieil homme a fait rire un enfant dans un train. Un vieil homme a fait rire un enfant dans un train. Une femme s'est adossée sur l'épaule d'un homme. Il ne se désirait pas, ni elle, ni lui. Des inconnus se sont endormis l'un sur l'autre. Ils étaient pleins de tendresse. Ils ignoraient tout de la logique du temps. Partout, les solitudes s'effleuraient, discrètes. Le bruit devenait fort comme elles étaient nombreuses. Et l'amour de tout le monde, dans son surgissement à jamais attendu, conçu comme un sel, un sucre fondant, que je pouvais offrir dans l'apaisement assidu. J'avais la sensation d'être qu'il était sans oreille, qu'on n'y verrait que des envies, qu'on oublierait celui sur soi, qu'il serait sans matière pour ceux pour qui il est. C'est un sage de ce monde, c'est un songe sans âme. Il se persuade que c'est réel parce qu'il s'ennuie. Il a besoin de douceur, je crois qu'il se sent seul. Il a besoin de sens, il cherche dans les coins. Besoin d'occupation pour penser un peu moins, c'est un idéaliste. Que quelques traces sur un bloc de métal, dans les pensées crédules, sur un matelas de bois. Il a les mains qui tremblent, elles sont un peu salies, elles ont fait de leur mieux, ça ne suffisait pas. Il a les épaules dures, et la pente du corps se ferait mal s'il tombait. C'est une pièce fragile. Il a la voix trop faible pour appeler sa mère qui vit mais à quoi bon, qui ferait tout pareil, qui vive mais à quoi bon.
Thank you.
La veille, j'avais dormi tard, j'étais rentré un peu bourré, un peu foncedé, et ma copine me parlait et m'empêchait de dormir, parce que son état était encore pire. On était sorti avec des amis à elle, même qu'avant ça, j'étais à une radio où un de mes textes était passé avec tout le reste de ma classe. En fait, la veille aussi, c'était une journée bizarre, et du coup, ce jour-là, je me suis réveillé à côté de ma copine dans mon lit. Rien que ça, déjà, c'était pas habituel si on regarde à l'échelle générale de mon existence. Il était tôt et pourtant mes deux colocs étaient réveillés, ça non plus, c'était pas commun. Ma coloc était pressée, elle devait se préparer. J'ai pas pu faire mon caca matinal, alors je suis arrivé un peu bougon dans la cuisine, et c'est l'autre qui en a fait les frais. Même que je devais manger les restes de l'avocat que j'avais cuisiné 2 jours avant, et putain, qu'est-ce que je peux détester l'avocat! En vrai, j'en bouffais pour me donner bonne conscience parce qu'il paraît que c'est sain, mais à l'heure du goûter, je m'arrête toujours à la boulangerie m'acheter une connerie. Double peine. Enfin bref, ce jour-là, on matait un film documentaire et même le réalisateur était présent, c'était putain d'intéressant. Quand je suis ressorti, je suis passé à Emmaüs récupérer des pieds de sommier parce que le mien était pété. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément le genre de course qu'on fait tous les jours. Et puis, j'étais sur le vélo bleu ciel de ma coloc vu qu'elle était partie en retard pour la journée, alors qu'en deux roues, j'ai toujours peur de tomber. Ensuite, je suis retourné chez moi, sauf que ma copine avait les clés. J'ai sonné 1000 fois, il n'y avait personne qui me répondait, alors je suis parti à l'école, je l'ai trouvé, j'ai laissé mes affaires et j'ai promis de faire un aller-retour. Arrivé chez moi, je jouais avec le trépied que je venais de recevoir d'un site de vente de contrefaçon chinois quand mon téléphone a sonné. C'est un nouveau téléphone, au début j'ai cru que la sonnerie était un réveil que j'avais mal réglé, mais en fait c'était un appel. C'est un nouveau téléphone, le numéro n'était pas enregistré. Je décroche, à l'autre bout, une respiration fracturée. Yanis? C'est ma petite sœur. Elle pleure. Il faut que tu rentres. Il faut que tu prennes le train et que tu rentres. Mima, ça va pas. Ça va pas du tout. Il faut que tu rentres. Quand j'ai raccroché, je savais pas trop quoi faire. Ça m'arrive souvent. Je mets du temps à comprendre et à remettre les choses à leur place. Le dernier train de la journée partait 1 heure plus tard. Je savais pas s'il y aurait le temps, s'il était prêt. Je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. J'avais besoin de réfléchir. Alors je suis parti aux toilettes. J'ai réparé le manquement, fait un rituel défection et j'ai utilisé mon nouveau téléphone au numéro non répertorié pour annuler tout ce que j'avais à faire dans les prochains jours. J'avais décidé d'organiser ma pendaison de crémaillère le lendemain soir. Tu peux le croire, ça? J'ai enfourché le vélo bleu ciel de ma coloc partie pour la journée et j'ai foncé à l'école. Ma phobie des deux roues était bien oubliée. Je crois que je savais que rater ce train me ferait plus mal que quelques os brisés, alors j'ai foncé. J'avais laissé mon sac là-bas, j'avais promis un aller-retour à un temps pré-coup de téléphone. Je suis entré et sorti en moins de 3 minutes. J'ai balayé de la main tous ceux que j'ai croisés en bafouant quelques règles de bonne camaraderie au passage. J'ai repris le chemin retour haletant comme un chien dans une voiture texane. Après tout, j'avais qu'un reste d'avocat dans l'estomac. J'ai déboulé dans mon appart, électrique comme un orage sans pluie. J'ai ouvert ma valise sur mon lit défait et j'ai jeté à l'intérieur tout ce qui me passait sous la main. Mon coloc est arrivé, m'a demandé si ça allait. Bien sûr que ça n'allait pas. Alors je lui ai dit, ouais, ça va. Il m'a regardé jeter des chaussettes dans le sac, chercher mon chargeur partout, me demander si j'avais encore assez de temps pour rouler un joint. La réponse était oui, bien sûr que c'était oui. Là, j'avais pas le choix. J'allais le rouler maintenant, le fumer sur le chemin jusqu'à la gare, et même une petite clope sur le quai avant de monter. Je me suis dit que ça serait nécessaire. Je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Je savais pas ce qui m'attendrait de l'autre côté du chemin. Je savais pas si j'étais prêt. En vrai, je crois que je savais déjà que je ne l'étais pas.
Vous venez d'écouter une proposition de Yanis Jaffry, précédée d'une proposition de Camille Renaud, précédée d'une proposition de Jérémy Norla. Et tout de suite, on écoute Pauline Vetter, Jeanne Haddad et Solène Garnier, et puis Louis Lejoux, vous êtes toujours sur Radio Primée.
Le goût du voyage, c'est partir à la découverte de lieux inédits, de lumières et de saveurs indescriptibles, photographier de ses yeux les paysages les plus lointains, oublier le décor inerte du quotidien. Pour moi, le voyage, c'est aussi retrouver une terre familière, une portion de ce monde qui apaise, qui relâche, qui absorbe les tensions et les peines, retrouver une énergie sereine. Je suis allée dans ce pays, la Hongrie, et chaque été, sans que je puisse lutter, mes pas me ramènent jusqu'à lui. vers ce village, la frontière roumaine, dans cette petite maison, dont les racines renouent avec le calme et les pensées d'une autre époque. Des souvenirs qui gardent leur couleur ancrée dans ma mémoire. Ce village hongrois est particulier, je crois. Il me semble qu'il existe des endroits qui dégagent quelque chose, une atmosphère, un pouvoir qui sort de la terre, qui imprègne l'espace, qui nous parle, plus ou moins. Cette petite part de la Hongrie est l'un de ces endroits. On y trouve d'immenses vallées, terrains plats sans fin, couverts de cultures diverses, de tournesols, de pastèques. Quelques routes les traversent, d'interminables lignes droites reliant un petit village à un autre petit village, entouré de champs qui s'évadent à l'horizon, et sur lesquels on distingue le mouvement de quelques formes sauvages, chevreuils, faisans, sangliers et lièvres vagabonds surgissant des feuillages. Du vert à perte de vue et pas une seule voiture sur des kilomètres. Au milieu de ces terres sans relief, il y a notre maison. Une maison semblable à toute autre dans ce village pittoresque où, dès la fin d'un jour de grande chaleur, on peut inhaler les odeurs caractéristiques du bétail porté par l'air chaud et étouffant. Celle des cochons, des chevaux qui nous entourent, propriété de voisins dont les chiens gardent les clôtures et aboient au moindre mouvement extérieur. On peut repérer le trajet de quelques individus à l'écho des hurlements canins qui se tracent dans les rues. Au matin, le soleil se lève tôt, les nuages se dispersent, l'air retrouve sa fraîcheur, une journée de paix commence. Il me semble qu'il existe des endroits qui nous rapprochent, qui nous ramènent à notre essence, qui nous font voir qui nous sommes vraiment et nous rendent heureux simplement. Des endroits du monde encore peu abîmés par les gens, par les coups, ils ne sont pas parfaits ces endroits. Ils ont leur fêlure, leur marque, leur ombre, mais des endroits qui ont une voix, qui ont des mots que l'on comprend et on croyait être sourd jusqu'à ce qu'on les entende. Cette petite part de l'anglais est l'un de ces endroits. Je m'y retrouve quand je m'y perds, je m'y assois sur la terrasse et j'y écris, bercé par le son du vent dans les branches derrière moi. Et chaque fois que j'en repars, je sens la distance m'arracher ce morceau de moi retrouvé, perdu encore jusqu'à la prochaine.
Cette femme qui s'est arraché un ongle et qui en a fait son archet. Elle est violoncelliste et son immense partenaire manipule une ampoule au plafond. Il la fait grésiller de bruit et de lumière en la tripotant les bras levés au ciel. Sur la pointe des pieds nus, pendant qu'elle joue du violoncelle ongulaire. On assiste à l'expérience au 6e étage d'un immeuble à Limoges. Il est 17h30. Un horaire assez inhabituel, entre chien et loup. Un groupe de personnalités à variation légère assiste à l'expérience. Le duo joue aujourd'hui la troisième proposition d'un triptyque semi-improvisé. Il émane un soulagement, presque une pérennité. Le public est averti, pour sûr. Il est monté par les escaliers. Aucun banquet n'est prévu à la suite de ce tableau d'appartement. Thank you. bouquet de menthe bétonnée se frottait là au-dedans. Calme. Il y avait un peu de son, un peu d'image, un peu de surprise. Il fallait se nourrir d'une pauvreté, d'un élancement de son aigu et rare. Peut-être du manque de stabilité. L'homme qui a conscience de se mettre en danger, ou à contrario le pousse tranquillement à oublier la raison. Aucun membre de l'assemblée spectatrice ne s'est assis ou baissé pendant la trentaine de minutes clignotantes. Les visages n'ont pas exprimé grand-chose, la patience peut-être. Les applaudissements étaient ronds et un peu sourds à la fin. Ils n'ont pas duré longtemps, ou bien j'ai oublié. Peu de gens parlaient après coup de ce qui avait eu lieu. Dans les escaliers, il y avait des beaufs et des délicats, mais les gens n'avaient pas d'humeur véritable. Le mouvement expérimental, expérimental, permet d'entretenir la paix avec soi-même. Sans avoir recours aux techniques sportives calmes telles que le yoga, ouvrir son esprit à la tempérance. Dans le même temps, aux délices de l'expérience. Un grand nombre de propositions visualisées. Stoïcienne qui entre et sort, impacte sans alourdir, ne contenant pas d'extrême et nécessitant une capacité d'enregistrement en dehors des critiques extrêmes, en dehors d'une nomenclature. Certains l'aiment tiède, d'autres fade, légèrement vieillissant. Il est à ceux qui s'interrogent à propos de la médiocrité, comme une victoire sur le reste.
Petite maison qui résiste encore par endroits, par tâches. La poussière sur la vitre fait un voile sur la ville, une couche qui cache pas tout à fait, juste un peu, pour créer une atmosphère, permettre de ne pas tout montrer, d'exciter ce qu'il faut de la vue pour qu'on en ait envie de s'y jeter. Cette couche ne fait pas partie du paysage, pourtant elle s'y intègre. Pourquoi n'en ferait-elle pas partie? Elle ajoute une matière supplémentaire aux urbaines. Elle prend place, là, entre nous et l'hôtel de ville. À nous de combler ce qu'elle peut dissimuler. Notre souvenir du paysage sera celui avec une fine couche de poussière qui recouvre la vitre du bus. Tiens, je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'il est nouveau. Il vient peut-être de déménager. Peut-être qu'on est voisins. Il me regarde. Un sourire. Qu'ils comprennent que je l'aide depuis qu'il est rentré. Il n'est pas loin. Seulement la vieille à côté de moi sortait avant moi au lit. De toute façon, on sort ensemble. Enfin, au même endroit. J'espère. Ce pantalon lui va tellement bien. Il a du style. Il n'est pas à la fac. J'ai l'impression de l'avoir déjà croisé. Il me regarde encore. C'est une diversion. Téléphone, bien. Quel jour tu réponds à un message? Un sourire, le regard sur l'écran. Nickel. Mais oui, mec, j'ai une vie à part toi. Il s'agit de beaucoup depuis quelques arrêts. Je vois son soutien-gorge maintenant. Pour son âge, quand même. De mon temps, les jeunes filles habillées comme ça, on savait où les trouver. De toute façon, il n'y en avait pas. On savait se tenir. Je ne comprends pas la mode d'aujourd'hui. C'est plus en plus court, de plus en plus moulant. Les filles pensent qu'à montrer leur corps. Aller au lycée, probablement. Elles devraient se concentrer sur l'école. Parce que les garçons, eux, je pense pas qu'ils aient changé. Toujours à vouloir séduire, à courir à des jupes. À fois. Parce qu'on me demande mon avis. À la maison. Bon, ça va, la vie est cool quand même. J'avais peur, mais les gens de ma classe ont l'air sympas. Je pense qu'on a deux, trois qui peuvent venir de mes collègues. Genre Adrien, là. On a bien rigolé, mais. Puis bon, ça fait qu'une semaine, on aura le temps de se découvrir. Faut que j'appelle les parents ce soir. Qu'est-ce que je vais faire manger? Il me reste quoi? Riz, courgettes, un peu de jambon? Ouais, pas mal. C'est moi ou la menade depuis tout à l'heure? C'était un parano positif. Allez, c'est le dernier trajet. Depuis 9h, j'en peux plus. On est d'une clope. Plus que 4 arrêts et DJ prend ma place. Les horaires de nuit, c'est les pires. Je suis bien content d'être du matin cette semaine. Surtout que l'OM joue ce soir. DJ doit avoir les boules. Il est presque aussi fan que moi. J'espère qu'on va se rattraper parce que les derniers matchs, c'était vraiment pas ça. Ma claque de cette voix là. Toujours, c'était mieux qu'on ne savait pas penser à ça. Pour les touristes, ils nous ont dit. Ouais, d'accord. Mais nous, on entend toute la journée. Ça rend dingue. Ne pas enlever ce dépôt. Grâce à lui, la réalité apparaît floue, indéterminée. Il est plus facile de s'approprier, de la faire sienne, de jouer avec ce qu'elle nous offre, d'essayer de voir un peu plus loin que ce qu'elle donne à voir. Au-delà des apparences? Peut-être.
Vous venez d'écouter Louis Lejean, précédé de Chana Dacre et le Solène Garnier. C'était de Pauline Vettel. Vous êtes toujours sur Radio Pliny. On parle de tout ce que vous vivez est inspiré de faits réels. Tout de suite, on écoute Lola Thierry, Félix Crossen, Isabelle Rodriguez et Julien Protodo.
Tout ce que je vis est inspiré de faits réels. Malheureusement, faits réels n'est pas féerique. Aujourd'hui, je ne m'amuse pas, j'ai la grève du délire au corps, et je bois un thé boisé, épicé, charpenté. Un mocal Barry Golden Tips, par exemple. Comment puis-je tirer ma langue au vieux quand mon sourire se contracte sous le poids des faits réels? Le réel médiocre et décevant. Le mocal Barry Golden Tips qui n'a pas les faits réels du café. On va me dire, cela te surprend? Oui, toujours. Mon stylo est une fée. Incarcéré, c'est enfermé dans des lignes. De mon encre, je trace un carré. À l'intérieur, j'y mets les monstres ministres. On va me dire, c'est mignon, un peu naïf. De mon encre, je trace un carré. À l'intérieur, j'y mets des noms et des visages. Des géants ou gérants du monde qui ne comprennent pas. On va me dire, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon stylo est tout fait. Pour le nouveau ministre brésilien des Affaires étrangères, par exemple, ce n'est pas compliqué. Le changement climatique est un complot marxiste. À ce stade, je peux bien incarcérer des gens sur mon cahier. Julien Assange reste-t-il d'une prison d'encre et de carrés? Je rigole devant les petits monstres et puis je me souviens de 20 000 personnes mortes dans la mer en bas de chez moi. On va me dire « arrête le violon ». Alors non, le violon, c'est pas simple, c'est même compliqué. Et on m'a dit que les choses sont toujours plus compliquées que ce que l'on pense. Alors je ne fais pas de violon car ce n'est pas simple. Et moi, je suis une personne simple avec des pensées simples. Je ne fais jamais de violon. Moi, d'habitude, je tape dans les mains, taper avec des mains, c'est simple. Et 20 000 personnes mortes dans la mer, c'est simple aussi. Alors rangeons nos housses et nos archets. Une chose qui est compliquée aussi, c'est les pauses. Partir à une heure, revenir à une heure. Les députés européens partent trop vite en pause au moment où un texte sur les visas humanitaires doit être voté. Peut-être qu'il y avait du thé mocal Barry Golden Tips à la cantine. 40 personnes sur un bateau de plomb, mon stylo décoiffé. Dénoncer, bof, dénoncer quoi? Au centre commercial de Libris, le rayon à dessin s'est toujours approvisionné en abondance, abondance, en abondance de faits irréels. Dénoncer conduit dans les mails indésirables des faits de société. Dénoncer
pensée est un bruit qui rejoint une boule de bruit tout excité, un tas de bruit sur la côte qui crie sur les chardons parce que l'eau monte et les chardons imperturbables dans leurs armures de pique, ils ne crient pas et n'ont pas peur de boire la tasse de Montalbari Golden Tips. Dans sa prison équatorienne, Julian Assange rêve-t-il de Guantanamo Bay? J'avais envie de parler de pandaras, de quetzal, de vrais faits. Mes effets réels devaient être hautes, mais aujourd'hui je ne m'amuse pas, c'est simple. On va me dire, ces pathétiques pauvres filles seules, chanceuses, en colère devant son écran empathique, mange tes pâtes, connasse!
adossé au chambranle de la cuisine. Ce corps qu'on ne peut pas comprendre. On m'a dit, les attachements ne sont pas sains. Celle-là, je la retiens. Il n'y a pas de remarque plus blessante que ce qui concerne directement notre façon d'aimer. De l'autre côté de la vitre en plexiglas qui sépare nos corps. Il y a toujours l'espoir au fond d'arriver à faire comprendre quelque chose de cet ordre, de se justifier, de dire « j'aime ainsi parce que je suis dans l'impatience, dans l'urgence. Moi, je ne peux pas attendre, je n'ai pas le choix. C'est la façon dont je fonctionne. Même si je pourrais fonctionner autrement, j'ai besoin, comme ça, de cet amour des autres. » Mais c'est long d'expliquer, de comprendre. Alors, je vais à la fenêtre. Je retourne dans ma bulle. J'érige la vitre en plexiglas où tu es de l'autre côté, désormais du côté du sain, du normal, et moi de la pathologie. La norme qui règle ces choses-là, ce qui règle le normal, donc, est fait de temps. Il faut une remise pour son impatience et prendre le temps de découvrir la personne. Alors seulement, il est juste de tomber amoureux, de donner son amour. Une autre fois, je m'adosse au chambranle de la cuisine. Je bois un verre d'eau. Elle descend lentement le long de ma gorge sèche et n'étanche pas la soif de mon palais. L'exploration du dire à la radio me force à expliciter, à mettre devant ce qui, d'ordinaire, est caché. C'est le nom de l'obscénité. La pathologisation nous force à nous enfermer dans l'image que l'autre a de nous. On aime comme ça. On aime différemment Dieu. Notre seule réponse possible est l'orgueil du modèle, de nous justifier, de dire que si, on peut aimer quand même. Et en même temps, c'est sûr qu'on pourrait aimer différemment, avec plus de retenue, de mesure, de temps, de patience, de dextérité, de facilité, de naturel, de laisser aller, de laisser venir, de laisser rencontrer, de laisser être, de ne rien forcer, de laisser aller, de laisser venir, de laisser être. De laisser rencontrer. Et pourtant, dans notre amour, qu'on peut en effet décrire comme « pas sain », ce n'est pas la vérité le problème. Je suis, vous et moi, toujours plus complexe. Dans mon envie d'aimer l'autre, il y a aussi de la curiosité. Qui il est? Qu'est-ce qui se cache derrière ces taches de rousseur? Que veulent dire les livres qu'il ou elle lit et comment elle les aime? Quelles sont les épaisseurs de sa sensibilité? Je peux alors essayer d'aimer en m'intéressant vraiment à l'autre, bien que l'amour totalitaire qui est le mien, à d'autres moyens, semble effacer ses curiosités réelles. Peut-être que quelqu'un pose ses mains sur la vitre de plexiglas et, le nez mignonnement appuyé contre la vitre, me regarde. Je vois deux grands yeux curieux de l'autre côté. Peut-être ceux-là seront-ils capables de vaincre mon impatience.
Julien Bretoto, précédé d'une pièce sonore de Félix Rossen, précédé d'une proposition d'Isabelle Rodriguez et d'une proposition de Lola Thierry. Tout de suite, on écoute Floriane Gitenet et Joseph Fabreau pour clôturer cette émission sur Radio Pimo.
Je vais vous donner un peu de temps. Tchaïkovski avait-il froid? Voulait-il contempler la muraille de Chine du dessus? Était-il déjà monté dans un avion? Peut-on décemment penser qu'un homme capable de faire appel à une si ingénieuse technique avait un jour dans sa vie embrassé une jeune fille sous la lumière tendre d'un bowling? La jeune fille avait-elle aimé ce baiser? Peut-il se laisser aller à croire que le monde de l'aviation a vu sa face changer par les recherches de M. Tchaïkovski? Et si oui, peut-on penser que ces recherches sont liées d'une manière ou d'une autre à ce que cette jeune fille qu'il aurait pu embrasser dans ce bowling ou ailleurs lui aurait murmuré à l'oreille au moment où sa main inexpérimentée serait venue se poser sur la hanche couverte d'une fine couche de tissu blanc? Un tissu doux? Faut-il croire que les aviateurs ont, dans leur sagesse, compris ce qu'il en était réellement du projet de Tchaïkovski en ce qui concerne les ballons dirigeables? La jeune fille? Sommes-nous sérieusement en droit de croire que cette histoire de bowling n'a rien à faire là? Ne sommes-nous pas plutôt en Union soviétique? Peut-il alors imaginer que la jeune fille est blonde, grande, belle? Que la TCH1 aurait eu l'air ridicule sur son corps aux formes généreuses? Ou au contraire que cette combinaison n'était faite que pour épouser ce corps? Pourquoi il n'y a pas de bowling en URSS? Quelle étrange outrecuidance nous permettrait de penser un seul instant qu'un homme ayant bénéficié d'une éducation telle que E.E. Tchaïkovski puisse perdre son temps avec des tentatives de record d'altitude en ballon? Existe-t-il un seul astronaute qui connaisse le nom de E.E. Tchaïkovski? Un seul astronaute qui l'ignore? Les astronautes ont-ils froid? Et si oui, embrassent-ils dans des bowlings? Leurs combinaisons, bien différentes de celles de Tchaïkovski, sont-elles aussi douces? Qu'est devenue la jeune femme du bowling que Tchaïkovski avait embrassée si ardemment qu'il en avait manqué d'air, qu'il avait serré dans ses bras si fort qu'il avait eu les mains gelées? Que signifient les initiales E.E.? E.E. était-il couturier? A-t-il seulement fabriqué de ses mains les mêmes mains qui un jour ont caressé la blouse d'une jeune fille, une combinaison si lourde qu'elle empêchait presque le mouvement? La combinaison TCH1 réalisée par l'ingénieur soviétique E.E. Tchaïkovski en 1931 ressemblait-elle à la combinaison blanche et moulante que portait la jeune fille dans ce lieu qui, sans être tout à fait un bowling, en avait la lumière? Blanche, elle aussi? Au vu des données éclairantes de la science contemporaine, pouvons-nous penser que, même si la jeune fille n'a rien dit au jeune homme qui deviendrait un jour l'ingénieur soviétique E.E. Tchaïkovski, il est parvenu à voir dans ses yeux, dans ses grands yeux d'un bleu anarchique, la possibilité de l'embrasser, de poser sa main sur sa hanche couverte par une fine combinaison blanche, de l'entraîner loin de ce qui ne pouvait pas être un bowling, de l'embrasser à en suffoquer, de l'aimer sans se préoccuper un seul instant du ciel?
Radiophonique en souhaitant un très joyeux anniversaire à Joseph Fabreau.